Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour Fernand, it's Fight Week, comment ça va?
Je vais bien toi-même.
Bah ça va Fernand. Alors comment ça se passe là cette préparation? Il y a quoi, il y a 3 semaines, t'étais en mode là ça y est, on est remonté. Je vais montrer de quel bois je me chauffe, on va montrer de quel bois on se chauffe au MMA Factory. Quel est l'état d'esprit de la team?
On est bien. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une team qui va venir te dire qu'ils ne sont pas bien de toutes les façons. Donc, tu es obligé de me croire. On est bien, on est content d'y être. Plutôt excité à pouvoir aller en découdre. Enfin, blasé par tout ce qui est autour de ça, quoi. Blasé par le cérémonial et tout ça. C'est pas aussi, c'est pas excitant de ouf, tu vois, comme la dernière fois, je pense qu'on voilà quoi. Donc un peu blasé et puis impatient d'aller voir si le boulot qu'on a fait à payer quoi, si le boulot paye quoi, si tout ce qu'on a fait comme entraînement va marcher. Ouais.
Il y a un état d'esprit différent par rapport au dernier événement, mais est-ce que c'est la première fois où même toi, de ton côté, vous êtes en mode, je vais pas dire conquête, mais tu vois, au-delà de ce côté victoire, il y a, entre guillemets, une opération reconquête des cœurs des fans et tout ça, ou pour le coup, ça c'est, tu mets ça de côté?
Non, c'est pas reconquête. C'est pour la première fois où on est autant motivé à juste améliorer les choses. Vraiment, il n'y a pas l'idée de conquérir qui que ce soit. Tu n'auras jamais, si j'ai un conseil à te donner, tu n'auras jamais le moyen de conquérir tout le monde. Enfin, il ne faut pas essayer de conquérir des opinions. Il faut se contenter des personnes qui sont autour de toi, qui t'apprécient, qui voient en toi quelque chose de bien, de futur et qui vont te pousser vers l'avant. Si tu passes ton temps à courir derrière les gens à convaincre ou à essayer de conquérir, tu vas te perdre. Mais c'est juste une volonté de chacun dans ce petit domaine, dans ce petit département, d'essayer d'améliorer vraiment les choses. C'est-à-dire que le pôle sol essaie d'améliorer son sol à mort, le pôle lutte essaie d'améliorer son lutte à mort, le pôle striking essaie d'améliorer son striking à mort. On essaie vraiment d'avancer à fond, tu vois, chacun dans son domaine, de manière indépendante dans un premier temps, ensuite, en symbiose avec tout le monde. C'est qu'on a vraiment à cœur de dire que le manga Benjamin sur la lutte met tous les petits plats dans les grands plats et ne laisse aucun détail. Très gros respect pour tous les adversaires. François Laurent, David Pierre-Louis, Infinity sont à fond sur le sol et de manière générale en plus. Hein. Je ne te parle pas là que de l'UFC. Là, on est sur le thème de l'UFC Paris. Mais en gros, nos athlètes, par exemple, Abou, qui se prépare pour le combat de Mustapha Aïda, il me faisait des éloges incroyables sur le sol et sur la manière dont il est pris en main au sol en ce moment, alors que c'est un mec qui est déjà un petit bon sur le sol, qui gère déjà très bien le sol et qui est devenu accro des sciences de sol parce qu'il dit je dois y être, quoi. C'est un truc de fou, je progresse, ça avance. Donc, c'est vraiment cette volonté-là, chacun, y compris Cyril, le capitaine, de dire j'ai faim, je suis impatient, il faut qu'on y arrive, j'ai envie de sentir la pêche, tu vois, j'ai faim.
Et justement, par rapport à monsieur Cyril Gane, donc main event contre Sergei Spivak, est-ce que le À chaque fois, je te pose la question, on va pas rentrer dans les détails du game plan, mais est-ce que là aussi, il y a cette envie de frapper fort, et au-delà d'avoir ce style insaisissable, tu te dis, on regarde ce qui s'est passé. Dernièrement, il y a 2 semaines, Aljamain Sterling contre Sean O'Malley, il y a eu un gros point d'exclamation avec un style à la Cyril Gane. Est-ce que tout ça t'a inspiré aussi?
Oui, beaucoup, ça m'a beaucoup passé. D'ailleurs, je t'ai dit, quand on a fait le King and DJ sur Sean O'Malley, je t'ai dit que j'ai l'impression que on est en train de passer à une nouvelle ère glaciaire. Entre guillemets, c'est que je considère les ères, comment dire, les périodes, les cycles de vie des styles de sport dans l'OMMA comme étant des ères glaciaires où on va dire, bon, il y a une extinction d'un style qui est, à un moment donné, on a eu l'extinction de la lutte avec le JJB, ensuite on a eu l'extinction du JJB par des lutteurs qui avaient compris comment annuler le JJB, ensuite on a eu des strikers d'élite qui sont arrivés comme Anderson Silva, comme Lyoto Machida, comme je sais plus, Conor McGregor, et ensuite on a eu, voilà, je pense qu'on est dans un cycle où les strikers ont tellement galéré, je l'ai dit, que les temps forts forment les temps durs forment les hommes forts. Et en ce moment, j'ai l'impression que les temps ont été très durs pour les strikers. T'avais des très grands strikers comme Poirier, ils arrivaient en moins de 2 minutes. Il y avait Habib qui lui prenait le dos, l'étranglait, il prenait le dos de Conor, l'étranglait, il prenait. Donc on a beaucoup galérer comme ça, et je pense qu'il y a ce moment-là où les strikers commencent à avoir le timing, à viser juste et tout, et ça se contraint. C'est qu'on avait un exemple avec Sean O'Malley. Tout le monde n'est pas Sean O'Malley. Hein. Cyril, c'est Cyril. Sean O'Malley, c'est Sean O'Malley. Mais je pense qu'il y a ce genre de combat qui va se passer là. On a Aljamain Sterling qui, pour gagner, devait tout faire pour que le combat soit à l'horizontale. Il a essayé. C'est pas qu'il n'a pas essayé, il a essayé, mais le changement de direction a compliqué la vie, et puis finalement il a dû boxer un peu plus longtemps qu'il avait prévu, et il a été connecté. On a le même style de combat à peu près qui va se passer, où il y a Cyril qui, même s'il se sent capable d'avoir beaucoup progressé, même si nous tous sommes convaincus qu'il a énormément fait de progrès au sol et en lutte, nous restons persuadés que là où il va briller, ça va être debout, et donc l'idée, c'est de rester debout. Et donc de l'autre côté, on a un gars comme Sergei Pavlovitch, qui est aussi quelqu'un de bon,
Sergei Spivak,
qui dans sa progression est quelqu'un de brillant dans la progression. Il n'est pas brillant dans l'absolu, il est brillant dans sa progression. Le même qui a combattu il y a encore quelques mois change rapidement. Il est beaucoup plus jeune, il n'a que 28 piges, il est frais, il est pesant, il est plein, il est lourd. Et quand il se pose sur toi et c'est reparti son poids, on sait que s'il met la main sur Cyril, ça va être intéressant. Et donc, il va tout faire pour que le combat se passe au sol. Et bon, donc on revient sur la configuration dont on parlait, Sean O'Malley contre Aljo.
Et en termes, Fernand, de résultats, personnellement, moi je trouve que Cyril Spivak n'est pas au niveau de Cyril Gane, et personnellement aussi, s'il n'y a pas de finalisation de la part de Cyril, je serais déçu. Est-ce que tu partages ça?
Honnêtement, j'espère une finalisation, mais avec le temps, la vie t'apprend des choses. Il y a Aljo versus Céline, mais il y a aussi Juliana Peña qui va battre Nunes. Il y a aussi, le Sud-Africain Duplessis qui va battre Whittaker. Il y a aussi, tout est possible à MMA. J'apprends avec le temps à être prudent, de me dire que tout a été fait pour qu'on puisse stopper Spivak. On a envie d'arrêter le combat. Ok, on a envie d'arrêter le combat avant le troisième round. Mais je ne vais pas mettre de la pression à mon élève en lui disant « c'est un échec, je suis très déçu si jamais tu ne finalises pas le combat ». Il y a déjà assez de pression comme ça, parce qu'il combat chez lui, parce qu'il y a 16 000 personnes qui vont l'observer, parce que beaucoup de gens attendent de lui, et je n'ai pas envie de le finaliser pas, je serai déçu. Mais vous l'avez compris, je souhaite que le combat se passe rapidement, qu'on gagne déjà, si on peut gagner, et qu'ensuite qu'on finalise, si on peut finaliser.
Voilà, et autre point où là, moi, personnellement, je suis partagé, parce que je me dis d'un côté, si on a Cyril qui est insaisissable, ça se passe très bien et tout, mais qu'il n'y a pas de phase de grappling, j'ai peur que les gens soient toujours « on ne sait pas ce qui va se passer quand il affronte tel ou tel type d'adversaire ». Et d'un autre côté, s'il est testé dans ce domaine-là, même toi, en tant que coach, tu te dis « ah bon, bah il n'a pas été insaisissable, mais au moins il a rassuré les gens quand... ». Enfin, rassuré les gens, toi tu sais ce que Cyril vaut à la salle, mais tu vois, aux yeux du monde, dans un cadre main event, il a montré ce qu'il avait sous le coude dans ce domaine-là. Et donc, qu'est-ce que tu préférais, toi aussi, de cette manière-là?
C'est vrai que c'est excitant d'avoir des combats qui ont des rebondissements. Je pense que j'aurais même pas besoin de lui demander. Il a vraiment envie de combattre, de manière générale. C'est qu'il y a eu, il y a l'envie de bagarrer, l'envie de frapper fort, l'envie d'être intouchable. Tu vois que ça, c'est déjà une dualité qui s'oppose. Quand tu veux frapper fort, tu as envie de t'asseoir, tu as envie de te poser, tu as envie d'être solide sur tes appuis. Mais si tu es solide sur tes appuis, tu donnes l'occasion à l'autre de mettre la main sur toi. Donc, tu as envie de bouger. Si tu bouges, tu deviens volatile. Si tu es volatile, tu frappes moins fort parce qu'il n'y a pas le retour de force du sol. Donc, il y a des projets, des envies et des objectifs qui sont des fois opposés les uns aux autres. Quand tu as envie de gagner de manière sûre et fracassante, tu n'as pas envie d'aller au sol quand tu t'appelles Cyril Gane. Mais quand tu as envie de montrer combien de fois tu as progressé au sol et tout ce que tu fais comme technique, c'est toujours impressionnant. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui t'apprécient de manière objective, tu as envie de dire bah, il faut que ça m'arrive, quoi. Il faut que je sorte mon banana split pendant le combat, il faut que je sois ma twister, quoi. Il faut que je sois le quatrième mec à mettre une twister à l'UFC, tu vois. Et c'est en opposition avec le fait, si je fais ça, je m'expose. Je prends le risque quand même que, pendant que j'essaie de prendre mon twister et tout, que le gars se retourne et tout, et qu'il reprenne la montée sur moi, et c'est dangereux. Donc, il y a un juste milieu qu'on essaie d'avoir qui n'est pas encore... qu'on ne va pouvoir valider que le jour du combat. On peut être là, toi et moi, à faire du blabla, mais la réalité, c'est que le jour du combat, il va falloir valider quelque chose. Il va falloir choisir en fonction de ce qu'on va nous donner, en fonction du niveau d'agressivité que va mettre Spivak. Cyril va devoir réagir, réadapter, et il prendra ce qui lui sera donné.
Et pour toi, est-ce que Cyril a changé au cours des derniers mois, personnellement? Là, j'étais très content de l'interview qu'il a accordée à Rusty, où d'habitude, et même peut-être même toi aussi, tu vois, on avait Cyril qui était en mode que le meilleur gagne, c'est un combat, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais moi, c'est pas avec ça, tu vois, que je vais me chauffer. Mais quand direct, on a quelqu'un qui annonce la couleur, qui dit bon, là, j'ai envie de lui faire mal, j'ai envie de sentir, tu vois, les impacts de mes coups. Est-ce que c'est pour la première fois Cyril qui fait juste de la com, ou quelque chose même profondément en lui, tu sens qu'a changé, et même toi, t'es content parce que tu dis « Enfin, on a peut-être réveillé quelque chose ».
Écoute, tu le sais déjà, j'ai pas besoin de te le présenter. Je pense que tu as assez fréquenté Cyril pour savoir qu'il ne fait pas ce genre de truc en mode com. Il ne sait pas communiquer en mode « je fais un fake com ». D'ailleurs, il est très opposé à la com. Ces derniers temps, il est très éloigné de la com et il n'est pas en mode com, quoi. Il a juste eu l'occasion de se livrer à un journaliste qui connaît depuis et avec lequel il a de l'affinité. Et donc, du coup, il se lâche quand il parle. Il parle avec beaucoup de naturel et il dit ce qu'il parle. Il a changé de manière positive sur ces choses-là. J'aime bien voir ce que ça devient. J'aime bien voir le côté où ça touche aux entraînements, ça touche plein pot. Et tu sens qu'il y a un changement, il y a une envie de vraiment aller sentir si je fais, est-ce que je fais vraiment mal ou bien c'est un sketch ou bien c'est un jeu où j'ai envie de voir vraiment où j'en suis. Et ça vient avec l'envie de gagner vite, de gagner bien. Je ne sais pas comment te dire, il y a une espèce de petite rage là de bien faire les choses. Et c'est tout ce que je ne sais pas comment te dire ça plus que ça. C'est que je l'ai vu plus assidu, je l'ai vu plus présent, je l'ai vu plus résilient. Bon, hier soir à l'entraînement, il a pris il s'est fait prendre une guillotine par quelqu'un qui n'est pas simple en guillotine. Je parle de Nassourdine pour ne rien gâcher. Et la guillotine a duré super longtemps. Et il était épuisé. Dans ma tête, je me suis dit, c'est dommage, quoi. On est en plein fight week et on est sur une phase de sol où il va devoir taper, parce que là, c'est dur, il va taper. Ou il va dormir, tu vois. Et ni l'un ni l'autre. Il s'en est sorti, il a retrouvé il a gardé espoir, il a gardé la gestion, il a géré les doigts, comme je dis souvent. Gère les doigts. Pas ça va les doigts, c'est gère les doigts. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui n'ont pas bien traduit, ou en tout cas écouté ce qui s'est dit au micro, c'était, il a bien géré les doigts de Nassourdine. À un moment donné, il a dégagé sa tête, il est revenu, il a combattu. Et à la pause, quand il s'est assis, et qu'on s'est regardé, et qui dit, t'as vu, Loking, j'ai pas lâché, hein. Ça me rend fier. Je suis archi content qu'ils comprennent que la vie n'est pas simple. La vie, ce n'est pas un hasard si on voit Volkanovski devenir violet quand il s'entraîne avec Brian Ortega et quand il combat avec Brian Ortega et qu'il ne lâche pas en guillotine et derrière ça, il va gagner. La vie n'est pas simple. La vie, c'est, tu peux pas juste dire, bon, c'est pas grave, si ça me saoule et tout, je tape et tout, il m'a pris échec et mat, bon, vas-y, la prochaine fois, je vais gagner. Tu peux pas faire ça. Et donc, le voir rentrer dans l'idée, il s'est dit, écoute, c'est quoi? C'est mieux, je dors. C'est mieux, c'est mort, je ne lâche pas. Et donc, c'est ces anecdotes-là dont je parle, ça me fait plaisir personnellement pour lui. Je le vois comme mon coach qui est fier de moi. Quand je galère en préparation physique, merci Facel. Très bon coach, très bon préparateur physique. Il est fier de moi quand je galère, et finalement, je réussis à remonter la pente. Et que je termine ma séance alors que quand j'ai commencé, je lui ai dit, je peux pas, c'est mort. Ce que tu me donnes comme objectif, c'est impossible, je peux pas faire ça. Et au final, quand je termine et que je dis, finalement, je l'ai fait. Et il est fier de moi. C'est ce que j'ai ressenti hier soir à 1h du matin à l'entraînement, Cyril Nassourdine, où j'étais en mode, je suis content qu'il puisse dire, t'as vu, j'ai pas lâché un. Parce que il était archi fatigué. Après, c'était au troisième round, au moment où il s'est fait prendre en guillotine, et ça se ramble, il le dégage, il revient debout, et ça s'allume debout. Je trouve c'est extraordinaire que la mentalité la puisse rentrer, que ce truc-là puisse commencer petit à petit à faire son chemin.
Et en termes de camp d'entraînement pour cette UFC Paris, tu as fait appel à Mourad Aliyev et à Cyril qui vient de l'équipe de France de judo, si je ne m'abuse.
Absolument.
Pourquoi ce choix-là de sparring partner? Est-ce qu'il y a des choses pour la suite qui se préparent avec eux? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que tu fais appel à chaque fois à des athlètes qui sont experts dans d'autres disciplines. Est-ce que c'est de plus en plus facile? Et là, surtout, je crois que ça faisait un petit moment que tu n'avais pas fait appel. Enfin, tu n'avais pas fait appel à des personnes exclusivement françaises, entre guillemets.
Moi, tu le sais déjà, je suis dans l'idée de consommer français parce que je pense qu'il y a un gros potentiel ici. Ce serait dommage qu'on affronte un samboïste, un judoka, en tout cas un samboïste avec des projections de judoka, comme Sergei Spivak, et ne pas exploiter le niveau du judo qu'on a en France. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que sur un autre événement, on aura... on aura des grands judokas qui seront là, qui vont venir regarder le combat samedi parce qu'ils supportent, ils viennent donner du soutien à Cyril. Moi, je suis pour consommer quand c'est possible le MMA et le sport de combat français. Donc, pourquoi aller Mourad Aliyev? Parce que je voulais qu'on soit confronté à des mecs lourds. La menace qui arrive, elle est lourde. La menace qui arrive, elle est forte. D'abord, c'était dans ma tête Pavlovich. Pavlovich, c'est quelqu'un de pesant, de lourd, d'encombrant, de brutal. Mourad Aliyev est très brutal. Il est vraiment effrayant. C'est que Mourad Aliyev est brutal. Mourad Aliyev a mis Cyril à genoux, frappe au corps. Très peu de personnes ont touché Cyril dans leur vie en mode striking et je touche bien. Il a mis à genoux, technique. Parce qu'il est brutal, parce qu'il frappe fort, parce qu'il est envahissant. Il a fait les Jeux Olympiques en boxe, il connaît la boxe et il est envahissant et il a l'envergure. Il le bat en taille, il le bat en volume, il le bat en. Enfin, c'est compliqué. Même si Cyril est très technique, Mourad est brutal. Et on avait besoin de cette brutalité. Ensuite, on a besoin d'être brutalisé aussi en combat pur, en combat de lutte, enfin, en opposition de lutte pure, lutte et judo, je vais dire. Et donc, pour ça, on a isolé l'entraînement avec Cyril Marais qui donnait les thèmes. D'abord, les premiers thèmes qui étaient toutes les projections possibles que peut faire toutes les projections possibles que peut faire le Sergei Spivak, notamment les projections en déplacement qu'on appelle les Sasai, notamment les Osoto, notamment les Uchimata, notamment les Kooshi Oshi, notamment voilà, toutes les possibilités à Raigoshi aussi, donc parce qu'il a la défense de lutte n'est pas la même. La défense de lutte que tu mets pour le lutteur devient un piège pour le judoka. Il faut le comprendre. C'est que quand le lutteur te shoot un double leg et que toi tu mets les bras sous les selles, tu ne te rends pas compte, mais tu lui mets les bras sous les selles et tu lui donnes l'opportunité d'aller chercher, de tourner le dos et d'aller chercher ta tête et te mettre en danger sur certaines choses. Donc on avait besoin de ressentir tous ces phénomènes-là, de se dire que, OK, comment j'ai réagi quand j'ai. Le mec, il a fait un double leg, je suis allé mettre les bras dessous et il tourne le dos pour aller en judo. Comment je le compte dessus? On avait besoin d'un spécialiste du judo et personne autre que Cyril Marais qui a été médaillé aux Jeux Olympiques pour aller chercher ce genre de défi et d'aller chercher à faire tomber Cyril dans ces conditions-là. Et voir Cyril qui commence à le contrer, qui commence même à le faire tomber, ça fait beaucoup... C'est très rassurant pour l'avenir. Ça veut dire qu'on apprend. Il a beaucoup appris dessus. Et cet apprentissage va lui servir non simplement pour le combat des Sylvia, mais pour la suite de sa carrière, mine de rien. Donc voilà. Et puis Cyril Marais nous a aidé aussi sur la suite au sol. Que, mine de rien, Cyril était quelqu'un qui a gagné pas mal de ses combats en judo avec le nez voisin. Et donc la partie au sol était intéressante pour lui d'avoir les contrôles de quelqu'un de pesant, de lourd qui est posé sur toi. Voilà, ça c'était les premiers choix qu'on a fait. Ensuite, on a eu beaucoup de personnes qui vont être déçues si elles ne sont pas citées là, qui sont des personnes du MMA Factory qui ont apporté beaucoup de force à Cyril, notamment un jeune qui combat amateur à MMA, il va passer en pro bientôt, qui a une belle carrière de pied-point, le Marocain Zakaria. Très bon boxeur, très bon striker qui nous a beaucoup aidé sur les sparring. On a eu les frères Boafia qui nous ont aidés, que ce soit Sweb, que ce soit Ilian, très bon style. Et il est compliqué, Ilian, hein. Il est compliqué en boxe, il est vraiment relou et compliqué à gérer. Et puis Sweb, lui, nous a aidés sur les deux, il a tourné avec Cyril, il a tourné avec Nassourdine, un bon niveau d'anglaise. Je pense que c'est le numéro 1 aujourd'hui dans sa caté pour la sélection olympique. voilà un peu ce qu'on a fait venir de l'extérieur. Et puis, on a eu aussi Xavier Lessoux qui a apporté une dimension qui était très intéressante, cette dimension de bagarre.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Le niveau de Spivak est là en combat, mais le niveau de striking de Spivak n'est pas si différent du striking de Xavier Lessoux. Et on a eu le même Xavier Lessoux qui essayait d'arracher la tête à
Freddy Kemayo.
Freddy Kemayo, qui était là et qui nous a beaucoup aidé, qui a fait des assauts incroyables avec un jeu m'en-foutisme incroyable en fait sur Cyril. Bon, il en a payé les frais des fois. Mais c'est un rouleau compressé, il avance, il court dessus, il va arracher les têtes. On a Falou qui nous a aidé sur la première partie de l'entraînement de Cyril aussi. Merci à Falou, vous allez le connaître bientôt. Vous ne pouvez pas l'oublier, retenez son nom là, Falou. Un jeune aussi qui combat en amateur, 84 kilos, une lutte, c'est une pourriture en lutte. Striking, relou, très posé. Très bon pour nous aider à aller visualiser la vitesse des timings. Et puis, en conclusion, le chef de file de tous ces sparring pour Cyril, c'est bien entendu Nassourdine. Parce que Nassourdine, même si son gabarit est petit en comparaison avec le gabarit de Cyril, mais on est sur la phase de fin, notamment en affûtage là, puisque Nassourdine, on le choisit pour être dans le coin carrément, parce qu'il va apporter ce côté fluide. C'est-à-dire que si on a le meilleur Sergei Spivak, ça m'étonnerait qu'il puisse avoir la vitesse de Nassourdine sur les points, la vitesse de Nassourdine pour shooter en double leg, la vitesse de Nassourdine, la technique de Nassourdine pour contrôler le dos de Cyril. Voilà un peu ce qu'on se donne. On s'est dit, OK, on est sur une période d'affûtage où on veut que l'intensité soit forte, mais que le volume soit très réduit. Et donc, pour ça, on a besoin de quelque chose qui va pulser, qui va aller très, très vite et qui va nous mettre en potentialisation. On va potentialiser les capacités de Cyril. Bah, on a Nassourdine qui va nous accompagner. Et donc, avec cette Nassourdine, on s'entraîne tous les jours dès 22h. Durant toute la fin de nuit avec Cyril.
Dernière question sur ce main event, Fernand. L'année dernière, avec Tae Tuivasa, il y avait beaucoup de personnes dans le monde du MMA au global qui sous-estimaient Tae Tuivasa. Finalement, on a vu ce qui se passait en main event contre Cyril. Aujourd'hui, est-ce que Spivak, pour toi, il est à sa place en numéro 8? C'est normal que Cyril soit grandissime favori, ou c'est quelqu'un qui, d'ici quelques années, il pourrait monter un petit peu plus Spivak, ou tu te dis là, c'est... Enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce à quoi les gens s'attendent, c'est correct, c'est légitime.
Je pense que Spivak va monter, indépendamment de ce qui va lui arriver samedi. Je pense qu'il va monter. Il est jeune, comme je t'ai dit. Hein. Cyril est jeune, mais Cyril a déjà l'âge du Christ, quand lui, il est encore beaucoup plus jeune. Et donc, ça veut dire qu'il a encore de la marche. Il aura le temps de progresser. C'est un mec qui n'est pas né avec du talent, Spivak. Ceux qui l'ont connu à ses débuts, moi je l'ai eu au MMA Factory pendant quelques mois, ceux qui l'ont connu à ses débuts n'étaient pas talentueux, mais quand on voit sa marge de progression et la capacité avec laquelle il est capable d'apprendre, on peut prédire sans risque de se tromper que d'ici quelques années, Spivak sera dans le trio principal à un moment donné, parce qu'il progresse lentement mais sûrement. Il apprend tous les jours et il monte sûrement. Maintenant, de notre côté en tout cas, on n'a jamais sous-estimé qui que ce soit. On n'a jamais été vraiment dilettant, contrairement à ce qui peut se dire et ce qui peut se faire, ce qui peut être cru. On a souvent été très sérieux, mais là encore, beaucoup, beaucoup plus. On prend Spivak au sérieux, peut-être même trop au sérieux. C'est que on est de l'autre côté du, on est plutôt de l'autre côté. On le prend, tout l'état-major est sur pied de guerre. C'est pas, il y a pas un réserviste qui est à la maison. Vraiment, tout l'état-major est sur pied de guerre.
All right. Je voulais qu'on parle de William Gomis, malheureusement, et peut-être que là, le King Energy va être très rapidement. J'ai perdu le mot en français, mais en tout cas, plus d'actualité parce qu'on risque de trouver un remplaçant. Donc, hier, on a appris que malheureusement, l'adversaire de William était forfait. L'UFC travaille pour un remplacement. Est-ce que ça change pas mal de choses pour vous? Enfin, quand je dis ça change pas mal de choses, Rusty hier m'avait dit que c'était impressionnant parce que c'est vrai que William Gomis, peu importe ce qui se passe, il est de très bonne humeur à chaque fois, ça ne bouge pas.
Oui. Effectivement, Rossi a dû te faire des retours. Il était à l'entraînement hier soir et on savait déjà que il n'a pas de. On savait déjà que il n'a plus d'adversaire, mais il s'est entraîné comme si rien n'avait bougé. Vraiment avec un mental de malade. Ce petit m'impressionne. Je le dis sincèrement, c'est pas un mot de le coach qui est fan de son gars, William. M'impressionne. Je pense qu'il est le genre de mec qui va monter, personne ne verra, et un jour on va dire, comme on avait dit un jour pour Moreno, quoi? Il est là, lui? Lui va combattre pour la ceinture, lui? Parce qu'on n'a pas vu venir. Il travaille énormément, il est très patient, il prend tout le monde. Là où on a eu Là, j'ai eu deux propositions déjà de remplaçants. Une proposition très sérieuse, une autre piste. Et les deux propositions, je les ai soumises à William. William a dit, je suis chaud bouillant. Il n'y a pas n'importe lequel, mettez un nom sur le contrat, donnez-moi le contrat, je signe tout de suite, je suis chaud bouillant. Et c'est très confortable pour un coach, pour un manager, pour un teammate d'avoir un athlète qui est capable de dire je suis chaud bouillant. Parce que chaud bouillant, ce n'est pas simplement quelqu'un qui dit qu'il est archi complet, qu'il a tout compris de la vie et qu'il est fort et qu'il peut battre tout le monde. Chaud bouillant, c'est quelqu'un qui a compris le principe de management. De façon à mettre en adéquation le principe du management avec ses objectifs. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche et dire que tu souhaites un jour champion de l'UFC et ne pas avoir en tête de pouvoir battre tout le monde qui se présente dans ta caté. Certes, dans une périodisation différente, tu vas pas t'élever aujourd'hui et dire je vais battre Max Holloway, mais tu es capable que tous les gens qu'on te propose, chacun dans sa temporalité, que tu sois chaud à les prendre. Toutes les personnes rankées autour de William Gomis 20 en plus ou 20 en moins en progressant, il est prêt à les prendre n'importe quand. Et ça, c'est archi rassurant pour l'UFC. C'est archi intéressant pour le confort mental. C'est que moi, le coach, j'ai moins de problèmes. Je n'ai pas besoin de lui remonter le moral ou de lui rassurer, dire c'est un short notice, c'est court, peut-être ça. Non. J'ai plus ça à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est, on m'a donné deux noms. Les deux, non. J'ai déjà sorti deux hypothèses de stratégie de combat. Et j'attends juste le OK et on est parti. Voilà.
Et surtout, j'ai l'impression qu'avec William Gomis, il y a quelque chose qui est peut-être assez rare chez les combattants, c'est que lui, il aime bien l'adversité ou en tout cas les moments où ça ne se passe pas comme prévu à l'entraînement, tu vois.
Parce qu'il a pris ça comme un step vers la progression. C'est une affaire de mindset, tout ce qu'on se raconte là. C'est fou, hein, comment le sport de haut niveau, à un moment donné, ça bascule du physique au mindset. Le mindset de William Gomis, c'est plus je souffre, plus je progresse. La galère dans laquelle on me met m'oblige à progresser. Et donc, mettez-moi dans la galère. Mais il le fait surtout, c'est quand on arrive à Vegas et que son combat est terminé et qu'il dit, Je vais rester au state un mois. J'ai décidé de rester au state un mois. Je vais juste me lancer comme ça dans la street et je vais commencer à discuter avec les gens. Je vais me débrouiller tout seul. Je vais apprendre à parler l'anglais. Ça, c'est le mindset de tueur. C'est que, OK, je vais juste me mouiller. Je vais arrêter d'attendre. Je vais arrêter de dire, ouais, je suis à Paris. Je vais apprendre quelques mots ici et là. Je vais me mouiller. J'ai envie de pouvoir, dans quelques mois, faire un discours en anglais. C'est ce mindset-là qu'il a tout le temps. C'est de se dire, non, il n'y a pas à discuter. Donnez-moi qui il y a et puis on y va. Je n'ai pas la prétention d'être le plus fort de ma caté. Je dis juste que vous me donnez un nom, je vais m'entraîner et je vais essayer de le battre. Vraiment, je vais le battre.
Voilà, on espère une bonne nouvelle pour William Gomis prochainement. Fernand, le reste de la carte de l'UFC Paris co-main event, on en a parlé. Évidemment, c'est un très très gros choc entre Rose Namajunas, l'américaine, et Cocorico Manon Fiorot. Peut-être demi-finale. Moi, c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est que Madame Blankfield s'est imposée face à Tayla Santos. Donc peut-être que ça complique les choses pour Manon. En tout cas, c'est un très gros choc pour la catégorie flyweight.
Mais Blankfield reste classée derrière Manon Fiorot quand même.
Ouais, elle reste classée derrière complètement. Mais c'est juste, voilà. Je me dis peut-être ils vont peut-être faire la primeur à l'américaine. C'est peut-être ça.
Tout dépendra de la prise de parole de Manon Fiorot après son KO, son TKO.
Ah oui, d'accord. Ah oui, on en est là. Ok.
Oui. Je pense que Manon a tout pour elle. Mm-hmm. Je pense que Manon a la puissance pour la lutte. Je pense que Manon a le volume et que Rose Namajunas ne met plus de volume. La Rose Namajunas qui était, attention, combattante d'élite, très bon niveau, qui a battu Willy Zhang. On sait combien de fois Willy Zhang, c'est un bordel. Qui a battu Joanna Zessi, elle est toujours là. Moi, je me méfie. Je dis simplement que le timing est là, la fraîcheur est là, le mental est là, elle est chez elle, Manon Fiorot. Et Manon a le volume, Manon a le striking qui est relou, notamment les sidekicks, Manon a la lutte. Elle a quasiment fait tomber chacune de ses adversaires alors qu'elle est censée rester debout. Au final, je pense qu'elle elle va passer. Je pense qu'elle va passer au premier ou au deuxième round. Elle va passer par TKO.
Et ben voilà. Et en coco main event, on a BSD Thiago Moises, un autre Brésilien dangereux pour BSD. Tu vois ça comment, toi?
Combat de la mort. Ça va être un combat de fou furieux. Il est possible que ce combat-là soit le combat de la soirée. Parce que l'opposition va être sanguinaire. C'est un gros combat. BSD Moses, c'est un gros, gros combat. Ça va batailler sale.
Ça, c'est un combat de chien, entre guillemets. Ouais.
C'est ça, c'est un combat.
A dog fight. Voilà.
Voilà, Moses n'a pas la finesse pour entrer et d'aller dire qu'il va utiliser son sol de manière subtile. Il va devoir bagarrer comme un chien pour y accéder. Et BSD ne va pas lui donner l'accès à ça. Ça va salement bagarrer. Pour le coup, voilà le fight sur lequel, bien entendu, je souhaite que BSD gagne et que je pense qu'il aura, j'espère qu'il aura le dernier mot. Mais pour le coup, voilà le combat où je n'ai pas envie de me mouiller. J'ai juste envie de prendre des popcorn et mater le combat. Parce que ça va sérieusement taper.
Pour le reste, Fernand, il y a donc pas mal de débutants, donc Yanis Gemouri, Nora Cornol, Morgan Charrière, Thérapiste qui doit revenir, on sait pas aussi, là c'est en suspens puisque son adversaire ne peut pas revenir. Est-ce qu'il y a une de ces pépites françaises qui toi t'intrigue particulièrement? Il y a aussi Zara Fern qui sera de retour, mais on va dire que c'est des combats qui sont un peu moins en vue que les trois combats qu'on a mentionnés précédemment.
Qui affrontait déjà Calva Kenty, la fille? C'est Zara, c'est ça?
Yes!
Zara affrontait, ouais, c'est ça. J'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Je pense que même si Zara a de la puissance et qu'elle est capable d'apporter une certaine adversité, c'est un gros combat. C'est un combat dur, ça. Cette fille-là, elle est dure. Yanis, je ne pense pas qu'il aura le même adversaire.
Ok. Il va y avoir un petit échange avec, avec William.
Non, je ne
Non?
sais pas, mais
Ok, on ne sait
juste,
pas.
je ne pense pas qu'il aura le même.
D'accord?
J'ai l'impression que cette Fat Cat a beaucoup de problèmes et il est possible que il ait un problème. Et je pense que son combat a un souci. Je pense que son adversaire, en tout cas, a un souci. Et ensuite, qui d'autre? Il y a quoi d'autre sur la Fat Cat? Nora Cornell, aussi une grosse adversité, mais je pense qu'elle devrait passer. Elle
Ouais,
devrait
contre Edward,
passer.
c'est fou
Ouais.
cette l'UFC direct la mettre dans. Bah, un peu comme ce qui s'était passé avec Zara Fearn pour son premier combat, c'était contre Felicia Spencer, je crois.
C'est ça, c'est ça. Il y a une grosse adversité quand même pour Nora, mais j'ai l'impression que si on prend juste le côté MMA de Nora, on va dire que elle est underdog, mais je pense que quand on combine avec son expérience en Muay, elle va réussir à rétablir les choses et faire un bon équilibre. Morgan Charrière, c'est évident qu'il va gagner. C'est évident,
Je suis d'accord.
je pense que Morgan va le traverser.
Voilà.
Voilà.
Eh ben, je suis
Qu'est-ce
entièrement d'accord, Fernand. Il y a aussi peut-être, après, je sais pas si, enfin, je sais pas. Bon, évidemment que tu es au courant. Concernant Volkan, donc il y a eu un changement d'adversaire entre-temps. Est-ce que tu connais son adversaire ou pas trop?
Oui, c'est un meilleur adversaire pour lui.
Oui, ouais, parce que oui, mais complètement. On est d'accord. Ouais.
C'est un meilleur adversaire pour lui, c'est un meilleur plan pour lui et j'espère qu'il va rebondir de ça et qu'il va revenir très fort. J'espère qu'il va utiliser ce tremplin qu'on lui donne pour faire les choses bien.
Formidable. Et bah Fernand, bah moi j'ai terminé. Juste dernier point. UFC Paris, compliqué pour l'UFC, c'est vrai, parce qu'on a l'impression que c'est le jeu des chaises musicales. Il y a eu pas mal de combats qui ont été annoncés assez tardivement. L'UFC qui va suivre avec Sean Strickland contre Adesanya, il y a eu le même problème. C'est quoi? C'est quand on sort des États-Unis, ça se complique pour l'UFC. Toi, de ce que t'entends en tant que manager, c'est quelque chose qui, enfin, je sais pas, une question de papier, une question de logistique.
Non, c'est une question c'est d'abord une question de casualité, c'est une question de chance, c'est une question de simplement de, tu as déjà eu Dana White te dire, il y a des fois, tu ne comprends pas. Il y a des fois, tu as une Fat Cat où il y a 16 combats et tu as 12 blessures sur 12 combats qui sautent. Et tu remplaces, tu remplaces, ça arrive. Donc, c'est pour ça que ceux qui n'ont jamais fait une promotion sportive, quand tu les entends critiquer des fois et dire oui, c'est abusé, c'est ridicule cet événement, comment ça, il y a encore eu tel blessé, c'est un sketch. Si vous saviez.
Aïe, aïe,
Si
aïe.
vous si, si, si juste vous saviez ça, c'est ridicule. Mais en tout cas, voilà, il y a ça en premier, et puis il y a la deuxième chose, c'est que honnêtement, il y a eu un gros retard sur le matchmaking sur Paris. Honnêtement, il y a eu c'était trop comme retard. Ça veut dire que au moment où on demandait les papiers médicaux de certains noms comme William Gomis ou Cyril, il y avait des noms qui devaient combattre à Paris où on disait c'est la dernière ligne droite. C'est quand je recevais le troisième avertissement pour donner le dossier médical ou bien certains papiers administratifs, on n'avait pas encore fait la moitié de la fight card. Donc, il y a, et en gros, déjà un événement, c'est à susciter à beaucoup d'annulations. Mais pire encore, si vous faites la fight card un peu en retard, comme ça a été le cas de Paris. Donc, ils en payent un peu les frais, mais c'est rien. Ils vont retomber sur leurs pattes, il y aura des combats, il y aura une dizaine de combats et ils vont s'en sortir. Je n'ai pas de doute dessus.
Et ben voilà, Monsieur Fernand, je te souhaite une très très bonne Fight Week. Samedi soir, on espère, j'espère, une ambiance tout aussi bonne, sinon meilleure que l'année dernière à l'Accor Arena, que ça se termine très bien, qu'on ait un face-à-face pas si improvisé que ça entre Cyril et Thomas Spinal à la fin pour que le rendez-vous soit pris pour un France-Angleterre d'ici quelques mois. Et puis voilà, un best of luck pour cette UFC Paris Volume 2, monsieur.
Exactement. donner de la force, tous ceux qui seront dans le stade et tout, allez-y vraiment avec l'énergie qu'il faut, parce que c'est ça qui fait qu'on se souvienne du public comme étant le meilleur public dans chaque pays. J'ai regardé la prise de retraite de, comment il s'appelle, Korean Zombie, mais c'est, tu vois, c'est vraiment sorti avec les honneurs, même quand tu as perdu, d'avoir un public qui te soutient comme ça. C'est là où je sors le carton jaune, le carton rouge, même au public brésilien. Ils auraient dû donner des honneurs comme ça à Glover Teixeira. C'est vraiment, c'est dommage qu'au Brésil, enfin, les combattants, certains combattants, enfin, c'est trop dur, quoi. Tu sors de là-bas, tu es hué, tu es machin. Les mecs qui quittent le stade et tout, dès qu'ils ne sont plus intéressés parce qu'ils pensent que tu vas perdre et tout. Mais ce qui s'est passé en Corée, c'était très bien. Et ce serait bien qu'on apporte les honneurs à nos combattants comme ça et qu'on les encourage, qu'on les accompagne. Merci pour le soutien.
Entièrement d'accord. À la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.